Pierre Kroll, bonjour.
Bonjour.
Très heureux de vous rencontrer à l'occasion de la sortie aux éditions Les Arènes de Dans quel monde on rit, votre dernière BD. 300 dessins avec lesquels vous couvrez l'actualité de septembre 2024 à septembre 2025, comme si le temps s'arrêtait le 28 août 2025, et pourtant le monde continue à tourner. Ça doit être un peu frustrant de se mettre des limites temporelles, non ?
Ouais, c'est amusant que vous posiez la question, parce que parfois on me dit un peu en boutade, pour être un peu piquant, oui, on sent venir les sapins de Noël, vous sortez vos livres pour les cadeaux de Noël et tout. Ce n'est pas faux, mais comme je dis toujours, il y a peu de gens qui font le bilan d'une année le 17 mars, hein, ou le 3 mai. Hein. Bon, c'est toujours en fin d'année que vous allez voir arriver tous les résumés de l'année à la télé, dans les journaux, etc. Donc ceci en fait partie. Mais comme il faut du temps pour imprimer aussi un livre et tout, autant qu'ils sortent un peu avant. Donc finalement, je fais depuis quelques années l'année scolaire en quelque sorte, quoi. Je fais 4 saisons d'octobre à octobre. Et tout ça pour vous dire que, comme vous l'évoquiez dans votre question, il y a quelque chose d'assez absurde. Vous savez, entre le 31 décembre d'une année et le 1er janvier, on a l'impression qu'on a terminé un livre, qu'on commence une autre année, vous faites la fête, vous bourrez la gueule, vous buvez du champagne, tout ça. En fait, il y a simplement un lundi qui est plus le lendemain, c'est un mardi, hein, où le monde continue, et c'est toujours la guerre en Ukraine, et c'est toujours la guerre pour prendre mon livre à Gaza, quoi. Donc voilà, c'est un absurde dans lequel nous vivons tous. Celui de se mettre des dates.
On trouve régulièrement dans des plateformes d'info des posts publiés avec parfois une mise à jour de quelques heures, de même parfois de quelques minutes. Est-ce qu'au niveau des dessins, il vous est arrivé de retoucher ou d'enlever un dessin que vous aviez posté parce que vous l'estimez plus en phase avec l'actualité ?
Non, jamais. Ce que je fais pour mon livre, c'est une sélection. C'est-à-dire que je les prends pas tous. Parce que le livre serait trop épais. Et comment est-ce que je sélectionne? Évidemment, j'enlève ce qui me paraît être les moins bons, ou ce qui me paraît, mais avec des nuances, c'est-à-dire que parfois je prends quand même un dessin que je trouve pas formidable, mais l'événement fait que je peux pas rater cet événement, je peux pas ne pas revenir dessus. Et à l'inverse, des dessins qui me paraissent très accessoires, je pourrais en pointer l'un ou l'autre, je me dis ça, je vais pas regarder, et puis, parce que je fais pas ça en un seul jour, quand je reviens dessus, je repense à des gens qui me disent chaque année, en lisant mon livre, « Ah oui, mais j'avais oublié ce truc-là, c'est quand même marrant, grâce à votre livre, je le reprends. » Voilà. Mais tant quant à les modifier, je mets en couleur parfois des dessins qui étaient en noir et blanc, voilà, pour agrémenter les pages. Pas tous, hein, j'aime bien qu'il y ait les deux, mais par contre les retoucher après, j'ai jamais fait ça de ma vie. Et c'est presque une sévérité avec moi-même. Je trouve que ce n'est pas, enfin, quelque part, si je dis malhonnête, vous voyez ce que je veux dire. Il y a pas, j'ai le droit, hein, c'est ma destination. Je fais ce que je veux avec intellectuel. Voilà, exactement, parce que une des définitions précise de mon métier, je la dois à mon rédacteur en chef au journal Le Soir pendant la période du confinement et du virus, etc. Il m'a dit, dessine beaucoup là-dessus, on te donnera une page entière en plus si tu veux et tout, parce que ton métier, c'est de documenter le présent. Donc, je laisse des documents au présent. Moi, bon, au fond, je travaille pour vous, pas pour moi, pour vous, pour demain, mais qui sait, pour dans 100, 200, 300 ans. Il y a un dessin que j'aime beaucoup, je montre parfois dans mes expositions, dans certaines conférences, je sais pas à quelle occasion j'ai fait ça, c'est pas de l'actualité, c'est un homme préhistorique, vous savez, qui dessine des aurochs ou je sais pas quoi sur la paroi de sa grotte, il y en a un autre derrière qui lui dit, mais ça n'intéressera jamais personne. Et le préhistorique dit, tu paries ? Voilà, et 20 000 ans plus tard, on va encore les regarder, ces dessins-là. Donc, une fois que mon dessin est fait, il appartient modestement à l'histoire, en tout cas au passé, et je n'y retouche pas.
Est-ce que c'est intéressant quand même quand on feuillette votre ouvrage, c'est de constater qu'il y a un côté prémonitoire pour certains des dessins, et qu'à la limite ils sont encore dans l'actualité, même à l'instant présent.
Oui, il y a plusieurs caractéristiques intéressantes qu'on peut trouver à un dessin en le revoyant après. Effectivement, alors prémonitoire, c'est déjà parfois arrivé, à force de suivre l'actualité tout le temps de manière involontaire, j'en devine parfois la suite, mais je ne me dis pas je vais faire un dessin prémonitoire, je fais un dessin et puis après l'actualité a tourné comme ça. Parfois c'est même soit parce que quelque chose n'a rien changé. Je dis toujours, il n'est pas pris dans ce livre-là, mais il est repris dans l'ancien, dans celui de l'année dernière, je pense, il y a un dessin sur le conflit israélo-palestinien que j'ai fait il y a plus de 20 ans. Et ça reste mon dessin préféré, parmi les centaines et centaines que j'ai pu faire sur ce sujet, c'est un Israélien avec une kippa là, qui creuse un trou pour enterrer quelqu'un supposé de sa famille, et un Palestinien arabe avec un kéfis à la tête qui en creuse un autre à côté. Et un titre, partager la terre. Ils se partagent la terre pour enterrer leurs morts. Ben, ce dessin, je l'ai fait il y a 20 ans. Et les choses ne font qu'empirer là-bas. Donc, il est chaque année un dessin de l'actualité du jour.
Pour préparer, je suppose qu'en fait, vous êtes passionné d'actualité. Vous avez un modus operandi. Est-ce que le matin, vous lisez New York Times, Ouest France, Libé, pour vous mettre en condition en sirotant votre café?
Oui, je picore, on va dire. Je commence par lire le soir parce que je n'ai pas tout lu. Je vais d'abord regarder si mon dessin est bien là, ou ça va si je vais le payer. Et puis je lis des articles qu'on m'a annoncés parce que j'ai un contact généralement avec le journal, la rédaction du journal vers 5-6 heures de l'après-midi, 4 heures ou quoi, si je veux savoir ce qu'il y aura dans le journal du lendemain, etc. Mais je l'ai pas lu pour autant. Mais vous savez que l'actualité maintenant, elle est permanente. Hein. Si vous allez sur le fil info, comme ils appellent ça, sur l'application du journal le soir, vous avez les infos au fur et à mesure qu'elles tombent et les articles au fur et à mesure qu'ils sont écrits. Donc je baigne dedans, mais c'est pas un réel effort. Il y a déjà longtemps, on me disait, mais vous devez dire, vous intéresser à l'actualité tous les jours. Alors, et je disais, oui, mais si j'étais dentiste, je crois que je le fais aussi. Voilà, il y a des gens que ça n'intéresse pas et je ne les juge pas du tout. Et il y a des gens qui baignent là-dedans tout le temps. Parfois, j'en ai quand même un peu marre quand il m'arrive de devoir prendre des vacances ou quoi. J'aime bien un moment me déconnecter. Et puis, dans mon métier, c'est un peu dangereux parce qu'après, 6 mois plus tard, je vais dessiner quelqu'un parce que l'idée me vient de le représenter. On dit, mais tu sais pas qu'il est mort. Et j'avais raté.
Faut plus partir en vacances.
Voilà.
Est-ce que vous rêvez en BD avec des bulles?
Je pense pas. Je me souviens pas beaucoup de mes rêves, mais non, je pense pas. Mais parfois, j'ai des insomnies dans lesquelles, malgré moi, je cherche une idée. C'est plutôt lorsqu'on m'a donné, pas pour le dessin du lendemain, ça, j'ai une sorte de, pas de rituel, enfin, je sais que tous les jours, je dois faire mon dessin. Mais, je dois faire la couverture de l'album, je dois faire un dessin pour une affiche, je sais quoi. Ça me réveille la nuit et je voudrais bien qu'il y ait un interrupteur pour dire, mais non, attends, tu feras ça demain et c'est pas possible.
Y a-t-il des têtes plus difficiles à croquer est-ce que vous avez une sorte de catalogue avec des fiches, avec des photos de profil, de côté, des notes de caractéristiques?
Je ne suis plus tout jeune, donc quand j'ai commencé à dessiner, j'ose pas le dire, enfin, que 25 ans, ça fait 40 ans. Effectivement, je gardais les photos, je découpais les photos dans les journaux des hommes politiques du moment et je les avais dans une farde. Maintenant, en deux clics, vous trouvez 200 photos de qui vous voulez sur Internet. Donc ça, je ne fais plus. Maintenant, notre première question était, est-ce qu'il y a des gens plus faciles ou moins faciles à dessiner? Alors oui, évidemment. Ça, c'est absolument évident. Je dis souvent que les dessinateurs de presse sont des dessinateurs de BD à qui on impose des personnages. J'aimerais bien inventer mon personnage. Alors parfois, je n'en suis pas loin. J'ai beaucoup dessiné le roi Albert. J'avais une manière particulière de le dessiner en robe de chambre, en pantoufles. Je sais que ça l'amusait lui. C'est quand même déjà plaisant. Et donc ça, c'était comme un personnage de BD. J'ai aimé dessiner Louis Michel, Elio Di Rupo, etc. Tous ces gens-là, je les ai dans la main, quoi. Mais Macron, c'est toujours pénible. Elon Musk, j'ai du mal à le dessiner. Non, c'est pas... J'ai pas le choix. Je suis quand même obligé de dessiner ceux dont on parle. Et ne parlons pas de Donald Trump, parce qu'il suffit de faire sa mèche et de cheveux et tout, on l'a compris.
Il est vraiment dans le top 3, Trump quand même. À la limite, tous les jours, on pourrait voir un dessin de vous, non?
Oui, absolument. Vous le dites très bien. Dans mon livre, il est très présent, mais je peux pas faire autrement puisque ce livre reprend la fin de la campagne électorale. Tout d'un coup, on a plus parlé que de lui. Son élection. Et puis la presse a senti clairement qui suit de 2 mois à l'élection. Donc et puis ses premières sorties tous azimuts. Donc forcément, il pouvait pas ne pas être dans le livre. Mais sinon, je vous assure que je me retiens de le dessiner parfois, pas pour lui faire du tort. Je crois qu'il s'en fout. Il sait pas qui est Pierre Kroll. Je crois pas qu'il sait exactement où est la Belgique. En plus, mais parce que simplement, ça occulte le reste. Et c'est quelque chose de calculé chez ces hommes politiques. Ils sont quelques-uns de cette école là. Sarkozy, chez nous, dans une certaine mesure, Georges-Louis Boucher, sont des gens qui savent que en occupant tout le temps les médias, on oublie quand ils ont dit un truc à la con. Si vous dites qu'une chose par an, on va la retenir. Hein. Quand vous en dites 4 par semaine, bah, c'est passé, il a dit ça, on ne sait plus. Et ils peuvent dire une chose et le contraire après. Voilà. Et ça, C'est pas un cadeau pour les dessinateurs de presse. Quand je n'ai rien, je peux toujours faire un Trump, mais c'est embêtant.
Une un des grands plaisirs de votre BD, c'est qu'on retrouve des dessins qui ont été refusés. Et on constate notamment que Melania Trump avait disparu du soir, et les Dardennes pour le Grignoux. C'était pas un peu frustrant de quand vous proposez quelque chose, que vous dites non,
Mais ça n'arrive pas souvent, hein, c'est très rare.
Il y en a au moins deux, en tout cas, que j'ai pu relever ici que...
Mais je peux expliquer. Alors c'est important comme sujet parce que évidemment ça donne toujours une impression de pourquoi ils ont refusé ce dessin-là, etc., etc. Ben déjà il faut savoir que moi je ne parle pas de censure quand c'est mon journal, celui pour lequel je travaille, le journal Le Soir, qui me dit. D'ailleurs ils le font toujours avec beaucoup de précaution. Si tu veux défendre ta liberté d'expression, etc., on t'écoute, mais il nous semble que ce dessin n'est pas vraiment opportun, que c'est pas trop réussi, que tu peux faire mieux, etc. Et je trouve que c'est pas du tout un problème en soi, parce que pour moi le métier de dessinateur de presse, il y a pas de mal à faire des dessins pour les exposer, pour les faire dans les bandes dessinées, pour faire dans un autre livre, je ne sais pas si on l'évoquera sur les animaux. Mais quand on dessine l'actualité au jour le jour, c'est le vrai métier, c'est de le faire dans un journal dont vous avez l'estime, qui vous considère comme membre de la rédaction comme les autres, et un journaliste, on discute aussi de ce qu'il écrit. Mmh. Est-ce que c'est opportun de faire ça aujourd'hui? Sur quoi vas-tu? Etc. Et donc, quand mon journal me dit réfléchis un peu à deux fois à ce dessin-là, je suis pas vexé, je le fais. Mmh. Parfois, je comprends pas pourquoi. Alors, l'exemple que vous venez de citer, on peut justement en parler. À la prestation de serment de Donald Trump, on voit sa femme, Melania, habillée d'une manière qui n'a échappé à personne. Elle est en noir ou bleu très foncé, elle est très grande, très mince, avec un chapeau qui lui cache les yeux, on voit pas son regard, elle sourit jamais. On dirait une sorte de tueur de la mafia, version top model, quoi. Et tout le monde a vu cette image. Donc, moi, je travaille beaucoup dans l'image, je peux pas l'évoquer dans un dessin. Et puis, sachant qu'un de ses premiers combats, il en a fait beaucoup et tout, c'est contre l'immigration des Mexicains, etc. Il va relancer le mur qu'il avait déjà fait dans son premier mandat, etc. Et donc, je la dessine, elle, en mafieux, un revolver à la main, qui va s'attaquer aux Mexicains qui passent le mur. Et ben là, Le Soir m'appelle en me disant, mais ce n'est pas... J'ai repris le mot exact qu'ils ont dit. Quelque part, ce dessin n'est pas justifiable. Comment est-ce que tu justifies ça? Elle n'a jamais dit qu'elle ferait ça. Je dis, mais non, mais enfin, d'abord, c'est très visuel. Et puis, elle était à la présence entièrement de son mari à côté de lui. Si elle est contre tout ce qu'il fait, ben, qu'elle le dise ou qu'elle vive plus avec. Justement, elle n'a rien dit là-dessus. Donc, tu peux pas l'accuser d'aller elle-même, voilà. Je suis pas tout à fait d'accord, parce qu'on est dans la liberté un peu de la caricature, mais du coup, il y a cette petite revanche de faire des albums, et donc, ah, tu me refuses mon dessin, ah ben je le publierai quand c'est moi seul qui décide.
On parlait du Grignoux, on parlait de cinéma, on parlait de Festival de Cannes, on parlait de Depardieu. Vous êtes dans l'optique homme-artiste, vous savez faire la part des choses?
Oh, c'est un vaste débat, ça. Je pense que c'est quelque part impossible de séparer les deux, parce que ça fait l'art est fait par un homme ou une femme, et c'est une question tout à fait qui prend une autre proportion devant la modernité la plus récente, qui est l'intelligence artificielle. J'ai fait le test, je monte dans des conférences, de demander à des intelligences artificielles de faire mon métier. Si j'ai toute l'idée et que je demande à une IA de dessiner ce que je lui dis de dessiner, elle le fera. Ça n'aura pas mon style, c'est pas bien et tout, mais c'est quand même mon idée. Mais si je lui dis ce qui est mon vrai métier, d'abord, trouve-moi un peu une idée sur la prestation de serment de Donald Trump. Voilà. Tout ce qu'elle trouve est absolument nul. Mais de toute manière, sera toujours quelque chose de pas incarné. Ça veut dire que le rédacteur en chef aura demandé recommence 20 fois, 30 fois, 40 fois, jusqu'à au moment où il a ce qu'il veut et tout. Il n'y a pas d'artiste derrière. Donc, tout ce qui s'appelle de l'art implique un artiste, hein, ou une artiste. Maintenant, si la question veut dire la personnalité en tout ce que qui comporte une qu'on fait dans une vie doit être jugée pour pouvoir juger l'artiste, là je dirais non. Mmh. Vous pouvez d'ailleurs le wokisme est ce que l'on sait, mais dans l'histoire de l'art, vous avez du boulot, hein, parce que souvent on ne sait pas. Moi, je connais pas la sexualité de Johan Vermeer. Je ne sais pas. Je connais pas toute la vie privée. Je parle Victor Hugo. On connaît un morceau, mais bon, on ne peut pas juger le passé déjà comme ça. Alors le présent, il faudrait demander un CV à chaque artiste avant de regarder ce qu'il a peint ou ce qu'il a dessiné. Donc je suis un peu confus, hein. Mais la question est un peu confusante, on va dire.
Vous citez en intro Marianne. Vous voyez comme un surréaliste. Magritte vous inspire?
Oui, les surréalistes, je ne suis pas un grand spécialiste, hein, mais il y a évidemment quelque chose qui est amusant, et pas parce qu'on dit toujours que la Belgique est un pays surréaliste, parce qu'on exagère un peu avec cette phrase en permanence, mais les dessinateurs comme moi se jouent toujours de la réalité, de la vérité. On exagère les choses un peu, on les tord un peu autrement, on leur fait dire qu'est quelque chose qu'elles veulent dire, mais qui est pas exactement ce qu'on a vu de premier abord. Et donc, parfois, on a même recours à l'absurde, etc. Donc, il y a des points communs. Et la phrase que j'ai citée au début, c'est parce que j'aime bien mettre des phrases qu'on prend un peu comme on veut. Même le titre de mon livre, Dans quel monde on rit, c'est évidemment une référence à la phrase qu'on emploie parfois quand on voit quelque chose d'incroyable qui se passe ou une évolution bizarre de quelque chose. On dit, mais dans quel monde on vit? Allez. Mais est-ce que c'est une question? Est-ce que c'est avec un point d'exclamation? Est-ce que c'est avec un point d'interrogation? En plus, quand j'y mets dans quel monde on rit, est-ce qu'on rit vraiment encore aujourd'hui de ce monde? Voilà. J'aime bien que des phrases soient, c'est pas ambigu, mais permettent plusieurs interprétations. Et donc, la phrase que j'ai retrouvée de Marcel Marien qui dit « Les cannibales n'ont pas de cimetière », moi, j'ai pas fini d'y réfléchir à cette phrase. Elle veut vraiment dire beaucoup de choses. C'est vrai que s'ils bouffent tout de leur famille, de leurs amis, ben, il reste rien. Bon, ça, on a compris, c'est drôle, déjà, quelque part. Mais est-ce que le monde qu'on vit en ce moment n'est pas un peu un monde de cannibales? On a le temps de faire des cimetières à Gaza et en Ukraine, les gens meurent sous les ruines. Enfin, oui, c'est une phrase horrible, surréaliste, interpellante, drôle. Tout y est.
Parlez-nous un petit peu vos petits hommes verts.
Ah, j'ai une certaine affection pour les martiens, enfin les extraterrestres, parce que
ça me fil rouge finalement. Non.
Oui, ils reviennent souvent, c'est vrai, ils reviennent souvent. Mais ils sont amusants à dessiner. Alors j'aime bien dire par boutade, mais c'est pas tout à fait faux que d'abord j'ai jamais d'ennui avec personne quand je dessine des martiens, parce que personne ne les a jamais vus, donc on peut pas me dire c'est mal dessiné. Vous savez à quoi ils ressemblent, vous? Bon. On peut rien me faire aucun reproche. Et eux n'en font aucun, parce qu'ils sont très, très discrets non plus. Ils n'ont jamais rien dit à personne. Donc.
Il y a peu de commentaires de leur part.
Voilà, j'ai peu de commentaires de leur part. Donc, je suis sûr du velours. Et alors, c'est pas aussi technique que ça, hein, dans ma tête, mais ils me permettent chaque fois un regard extérieur. Comment trouver plus extérieur que ce regard? Que ce regard
un peu complexe. Des mopettes, quoi, finalement.
Oui, c'est ça, avec encore plus de distance, quoi. Encore plus de distance. Eux peuvent dire que notre monde est absurde. Si je le fais dire à un humain, c'est qui? Il est qui pour le dire? Il fait quoi, lui? Tandis que eux, voilà, c'est des spectateurs.
Il y a quelques mois, vous faisiez découvrir un autre aspect de votre personnalité. Vous êtes docteur S darwinisme, en co-signant avec Vinstien Després, donc qui est philosophe des sciences, Dieu, Darwin, tout et n'importe quoi. Également aux éditions Les Arènes. Et on découvre finalement que Dieu est un gros amateur au niveau de la création du monde. Boileau disait 20 fois son métier, remettez votre ouvrage. Dieu fera 26 tentatives infructueuses avant d'arriver à cette création. Finalement, c'est quoi ce livre? C'est vous, paraît-il, qui avez amené le sujet auprès de Vinciane?
Alors, si je parle de ce livre, on est parti pour des heures. Parce que c'est quelqu'un qui était mon assistante à un moment et tout qui me dit, tu parles souvent d'éthologie, parce que ça m'a toujours passionné, l'éthologie, le comportement animal m'a toujours tout gamin, ça m'a toujours passionné. Je ne sais pas aller vraiment dans ce domaine-là, mais elle me dit, moi j'écoute souvent à la radio une fille qui s'appelle Vinciane Després, qui est philosophe des sciences et qui parle beaucoup d'éthologie et d'animaux. Est-ce que tu la connais? Ben oui, je dis, je la connais très bien. Moi, j'ai pris des verres avec elle quand on avait 18 ans. Elle était à l'UNIF de Liège. Moi, je faisais l'architecture, une licence en sciences de l'environnement, et elle faisait la philo, et on a bu des coups. Et puis j'ai lu ses livres. Elle dit, vous devriez faire quelque chose ensemble. Donc voilà, je dois ça à une tierce personne qui s'appelle Ariane, et j'ai été revoir Vinciane, et on s'est entendu, re-entendu tout de suite, avec des questions que je me posais, ça je pitche un peu le livre, depuis que je suis gosse, par exemple, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est qu'un Bernard l'Ermite, cette espèce de crabe là, qui, voilà, mais un drôle de crabe, c'est un crustacé, mais il n'a pas de coquille. Donc, cet animal, normalement, il est fait pour crever très vite, sécher au soleil ou se faire bouffer par un poisson qui passe. Donc, il passe sa vie, mais c'est vrai, hein. Des Bernard l'Ermite, il y a plein d'espèces différentes, il y en a dans le monde entier, passent leur vie à trouver des coquilles. Ils se mettent dans un dé à coudre, ils se mettent dans une, ils sont gros, dans une boîte de conserve, ils se mettent dans la coquille d'un escargot le plus souvent mort qu'ils ont trouvé. Ils passent leur vie à ça. C'est leur karma. Et c'est le tout le temps. Autre exemple
j'aime bien aller à l'Irlande, moi.
Alors, l'élan d'Irlande, elle me l'a appris. Donc, je passe vite, très vite par le paon. Le paon, ce magnifique oiseau qui a une queue formidable et tout. On comprend quand on a appris ce qu'est l'évolution. Les femelles sont attirées par le paon qui fait la plus belle roue possible avec les plus belles plumes. Donc, c'est avec eux qu'elles vont faire des petits, et les petits mâles auront des belles plumes et vont être, etc. Et à la fin, ça se développe, c'est ça, le principe de l'évolution. C'est simple et compliqué, hein. Les girafes n'ont pas des grands coups pour attraper les feuilles. C'est les girafes qui ont des plus grands coups, qui ont fait des enfants, qui ont survécu, etc. Bon. Mais le paon, c'est pas un cadeau de se balader avec un truc qui fait 10 kilos et qui traîne derrière lui. Il sait plus voler avec ça. Il se ferait bouffer par n'importe lequel. Et alors, j'ai dit à Vincent, tu sais m'expliquer, toi, qui a lu tout Darwin. Elle dit, tu l'as pas lu, toi? Ben, pas tout. Non. Elle dit, ben, Darwin, c'était son cauchemar. Justement, il se disait, ma théorie, elle est merveilleuse, mais c'est pas normal. Le paon va disparaître si c'est comme ça. Vous m'avez parlé de quoi, l'élan d'Irlande? L'élan d'Irlande, c'est un cerf, en réalité, c'est même pas un élan. Vous savez que les cerfs se battent parfois entre mâles pour pouvoir justement se reproduire avec les plus belles biches, quoi, on va dire, je suppose. Mais la nature n'est pas folle, ils vont pas chaque fois s'entretuer. Donc souvent, ils sont dissuasifs, ils ont un début de bataille, ou ils ont des bois tellement impressionnant que l'autre cerf dit, bon, ok, moi, je le laisse tomber, voilà, je te laisse les femelles, je n'y vais pas. Voilà. Et c'est ça l'évolution, ceux qui avaient les plus beaux bois ont toujours grandi. On est arrivé à un cerf qui avait des bois qui faisaient 3,50 m. Mais il passe plus entre deux arbres dans la forêt, il se casse la gueule partout, il se noyait dans les marais, etc. Et il a disparu, l'élan d'Irlande, il a disparu. Donc, tout ça a un point commun, c'est que si vous êtes créationniste, vous voulez croire que Dieu a créé le monde en 6 jours, alors, il faut admettre qu'il y a des jours où il était bourré, des jours où il avait la gueule de bois, des jours où il était super génial, parce qu'il a fait de tout, il a raté des trucs, les animaux qui ont disparu, il a lancé des évolutions comme ça bizarres, qui sont devenues n'importe quoi, il n'a pas tout réussi, hein, alors. Et si vous admettez plutôt la théorie darwinienne de l'évolution, ben, l'évolution, elle n'a pas un but précis, elle va pas vers ce qu'il y a mieux, de plus adapté. Il y a eu toute une période récente, on l'a appelé des hyper-adaptationnistes, qui cherchent à trouver une raison à tout. Bon, il y a une raison au bois, là, c'est de faire peur aux autres cerfs, mais cette raison va l'amener à disparaître, donc c'est un peu raté. D'où le titre, très simple, pour un livre quand même assez sérieux, « Dieu, Darwin, tout et n'importe quoi ». Et ça, la phrase appartient à Vincent Després, c'est moi qui l'ai résumé comme ça, mais c'est Vincent qui théorise ça mieux que moi. La nature, en fait, elle fait tout et n'importe quoi tout le temps. Et c'est peut-être bizarre à admettre, mais c'est ça qui est fabuleux. Mais on préférerait penser, si vous êtes croyant, peut-être pas créationniste, mais qu'en tout cas la nature est tentée à aller vers l'homme, parce qu'il est malin, il est tout ce que vous voulez. D'accord, une méduse, c'est 99,9% d'eau. Mais elles sont là depuis 20 millions d'années, hein. Elles sont parfaitement réussies, c'est parfait une méduse. Il y a rien à... Alors ça regarde pas la télé, ça n'écrit pas des livres, mais c'est parfait comme animal. Donc la nature, elle fait tout, n'importe quoi. Parfois ça marche, parfois ça marche pas. Elle recommence, elle reprend des éléments d'un animal pour mettre dans un autre. Voilà, tout le temps. Et c'est pour ça que c'est fabuleux. Donc c'est en même temps très optimiste, qu'on dit très défenseur de la nature. Il faut défendre la biodiversité, etc. Parce qu'il y a tout dans la nature, y compris du raté.
Dans ce siècle de réflexion, donc avec Dieu et Darwin, moi j'aurais bien vu l'arrivée de Sigmund Freud, puisqu'on parle beauté, séduction, c'est que ça pile aussi.
Ah ben je le suggérerais à Vincent, parce que c'est un de ses leitmotifs là-dedans, dans ce travail, c'est qu'elle pense que il y a des raisons justement dans la sélection naturelle qui n'est pas simplement due à ce qui sera le plus adapté pour survivre, mais à ce qui paraît le plus beau. Par exemple, Darwin l'avait déjà abordé en parlant du caprice des femelles, c'est-à-dire que parfois,
Ben, c'est parce qu'elles trouvent ça beau que les femelles choisissent ce pont-là, et c'est pas nécessairement parce qu'elles se disent que c'est le plus fort, le plus costaud, etc. en plus, mais juste c'est le plus beau. Vous savez, on a vu des singes s'arrêter pendant un quart d'heure à regarder le coucher du soleil. Pourquoi ils font ça? Voilà.
Pierre Colin, merci. Donc, on rappelle dans quel monde on rit, proposition Les Arènes, et si on veut compléter son plaisir, donc Dieu, Darwin, tout et n'importe quoi, également aux éditions Les Arènes.
Voilà.
Merci.
Un ordre de lecture. Merci à vous. J'espère que je n'ai pas saoulé tout le monde, parce que je suis très bavard quand on me lance sur des sujets comme ça, qui me passionnent. C'est beaucoup de mots.
Merci.